10h, midi, envie de prendre l'air, l'air de jeu.
On va s'envoler aujourd'hui, effectivement, puisqu'on va se diriger du côté de Colombier avec Claire qui se trouve à la salle des sports de Colombier. On l'évoquait tout à l'heure avec Guillaume Joly, skate indoor. Alors lui, il connaît le skate outdoor, moi aussi, mais on ne connaissait pas le skate indoor. Bonjour Claire.
Mais bonjour Florian, bonjour à vous tous et à vous toutes. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de l'ère de jeu. On vous promet une matinée virevoltante avec nos invités Damien Jacob et puis Michael Gagnebin. Tous les deux sont des passionnés de cerf-volant. Et oui, kite en français, ça veut dire cerf-volant. Donc ils pratiquent, ils initient également au kite indoor, une discipline qui allie, comme on va le voir, dextérité et déplacement. Et puis le plus difficile, c'est que comme c'est à l'intérieur, il n'y a pas de vent. Donc on va voir comment faire voler un cerf-volant sans vent. Et puis si vous avez envie de nous retrouver, si vous voulez passer un petit moment, voir ces cerfs-volants, on est ici donc au centre sportif du Vignoble à Colombier. C'est jusqu'à midi que vous allez pouvoir nous retrouver. Alors messieurs, bonjour.
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 Bonjour à tous, à toutes.
Nous allons donc aborder ce vaste sujet. Alors, pouvez-vous déjà nous expliquer en quoi ça consiste le kite indoor? Et puis, est-ce que c'est considéré comme un sport ou plus comme un loisir?
Alors, le kite indoor, c'est de faire voler le cerf-volant à l'intérieur, sans vent, en utilisant le corps, les mouvements du corps, des bras, les déplacements. Et puis, ça peut être un loisir ou un sport, les deux.
Est-ce qu'on peut parler de l'origine du kite indoor et puis est-ce qu'il a évolué au fil des ans?
Alors je dirais l'origine provient essentiellement des grandes améliorations qu'il y a eu dans les matériaux qui ont donné la possibilité de faire des cerfs-volants très légers. Évidemment quand on est indoor il faut quelque chose de très très léger parce que le vent qui va le porter c'est nous qui le créons donc il n'est jamais très très rapide. Donc c'est quelque chose qui est assez récent dans l'histoire du cerf-volant, je dirais peut-être une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Il y a eu un grand succès dans les années 90 et 2000 à peu près où il y a eu passablement de festivals, de championnats, de spectacles qui se sont un petit peu essoufflés avec le temps. Le cerf-volant est un peu dans un creux de vague. C'est plus tellement quelque chose qui est à la mode en dehors des bords de mer. Donc, je dirais aujourd'hui en Suisse, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus rien, c'est plus vraiment un sport considéré en tant que tel. Mais on trouve encore des compétitions en Allemagne, en Chine, en France, aux États-Unis évidemment aussi, avec quelques pointures qui savent très bien voler à l'intérieur.
On va passer à notre premier jeu qui est celui-ci.
L'ère de jeu, le défi.
Le défi, c'est un objet qu'il faudra nous apporter. Vous avez jusqu'à midi pour le réaliser. Alors, vous allez nous dévoiler l'objet du défi d'aujourd'hui, Damien Jacob.
Un objet qui vole, ça peut être un cerf-volant, ça peut être un avion, un petit avion fait en papier, ça peut être quelque chose qui est très léger ou plus simple.
Est-ce que vous avez une suggestion à faire, vous, Michael Gagnebin?
Moi, je m'attends à recevoir une belle plume, une plume d'oiseau. Ça, c'est le symbole de l'objet léger qui vole tout seul. Donc, ça, c'est ma suggestion.
Oui, alors moi, j'en ai une autre aussi. C'est un frisbee, pourquoi pas, hein?
Pourquoi pas, évidemment, un frisbee. Il y a la notion de contrôle aussi dans le cerf-volant, c'est-à-dire qu'il y a ce fil qui nous relie. Frisbee l'a pas, la plume non plus, les drones l'ont pas, donc c'est un peu le seul. Alors, peut-être qu'un mélange entre une canne à pêche et un cerf-volant, ce serait pas mal.
Jusqu'à midi. L'ère de jeu.
L'ère de jeu jusqu'à midi en direct de Colombier, du centre sportif à Colombier, pour justement, Claire, nous parler de kite indoor, le cerf-volant volant à l'intérieur.
Oui, le kite indoor.
Le kite, pardon.
Avec nos invités, Damien Jacob et puis Michael Gagnebin. Comment vous avez découvert le kite indoor et qu'est-ce qui vous a attiré dans ce sport, Damien?
Ben, c'est à travers le cerf-volant à l'extérieur. On aimait bien quand il y avait du temps avec beaucoup de vent. Ça donne plus d'importance au cerf-volant. Et puis la mauvaise saison arrive. Et puis on s'est dit, mais tiens, comment est-ce qu'on pourra continuer à pratiquer notre activité? Et puis on a dérivé à travers des informations obtenues par Internet sur le kite indoor à l'intérieur. Et on a fait nos premières séances ici au Sporting à Colombier.
Et vous, alors qu'est-ce qui vous plaît, Michael, dans ce sport?
Bon, comme le dit Damien... On s'est retrouvé dans des situations où on n'avait pas la possibilité d'en faire dehors. Alors aussi, il y a la température, hein, bien sûr, les saisons. On est en Suisse, les saisons sont bien marquées. Mais il y a aussi le problème du vent. C'est-à-dire qu'en Suisse, on a des vents très irréguliers. C'est un pays de montagne. Et on a très régulièrement des journées sans vent. Ou alors avec très peu de vent. Donc on s'est retrouvé un peu, au début de notre passion de cerf-volant, un peu frustré, souvent, à se dire, mais ça monte pas, ça tient pas en l'air, les sensations qu'on a quand on est gamin, puis qu'on essaye, puis que ça marche pas. Et en fait, c'est un peu à ce moment-là qu'on s'est équipé de certains cerf-volants plus légers, en se disant, bon, il existe des cerf-volants pour peu de vent, essayons. Et c'est là qu'on a découvert qu'on pouvait les faire voler sans vent. On peut faire des ronds avec un cerf-volant, tourner, puis se promener en tirant notre fil. Et c'est là où on s'est dit, mais ce serait intéressant d'essayer à l'intérieur. Donc sans courant d'air du tout, avec les contraintes intérieures et tout, et puis on est tombé dedans, je dirais. Parce que, comme pour toute chose, hein, dès que ça commence à s'enchaîner, qu'on commence à avoir un petit retour, on se dit, mais c'est génial, faut qu'on continue.
Les premiers cerf-volants qu'on utilisait, notamment le 4D de chez Prism, eh ben, au tout début, on disait, mais il ne va pas, parce qu'il se démonte, s'il y a du vent. Il se défait, les vergues sortent, etc. Et à travers la pratique du cerf-volant d'intérieur, eh ben, c'est un cerf-volant maintenant qu'on adore parce qu'il est très doux, il nécessite peu de vent. Puis il est très fluide dans son vol et très facile à l'acrobatie. Ça, c'est une évolution.
Est-ce qu'on peut parler d'avantages physiques et mentaux quand on pratique cette discipline? Parce que j'imagine qu'il y a quand même des comportements à avoir.
Oui, alors il faut développer, bon, il faut être patient, persévérant. On développe une bonne coordination entre les membres, les jambes, les bras, et puis aussi, suivant ce qu'on recherche, une bonne base de cardio, parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Des mouvements peuvent être lents ou rapides, et puis ça développe une bonne concentration et anticipation.
Et puis, est-ce que ça calme un petit peu? Est-ce que c'est un côté apaisant, ce sport-là, pour vous, Michael?
Oh oui, totalement, totalement, bien sûr. Ça fait partie de la raison pour laquelle j'en fais, à vrai dire. Il y a quelque chose de zen, il y a quelque chose qui nous transpose dans un autre monde, en fait. On fait partie du ciel quand on vole. Et puis bon, c'est vrai que on se met régulièrement une musique dans les oreilles. C'est un peu une chorégraphie, donc il y a quelque chose de très calmant, ouais. Ou alors, parfois en silence, avec le son des oiseaux, avec le son de la nature, quelque chose qu'on oublie un peu de nos jours, prendre le temps. C'est vrai, disons, quand on fait ça en extérieur, on se met au milieu d'un champ, et puis on est là pour 2, 3, 4 heures, au même endroit, à observer, à sentir, à écouter. C'est très zen, en fait.
En salle, est-ce qu'on a quand même aussi cette même sensation?
Je dirais un peu moins, quand même, en effet. En salle, il y a quand même le côté un peu challenge. C'est une contrainte, la salle, hein, parce qu'elle est limitée en espace, elle n'a pas de vent, forcément, donc on va tout devoir créer soi-même. Je dirais que c'est beaucoup plus tranquille si on est en extérieur avec un bon petit vent. Là, on reste debout au même endroit, on ne se fatigue pas trop. Alors, on peut se fatiguer, hein, tout dépend, c'est comme tous les sports, tout dépend à quel rythme on le pratique. Mais je dirais, en intérieur, c'est un petit peu plus sportif, quand même.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
On passe notre matinée en direct à Colombier au centre sportif. Si vous avez envie de rejoindre Claire sur place pour aller voir ce que c'est que le le cerf-volant indoor, on va dire ça comme ça, on va parler en français, c'est là-bas que ça se passe.
Oui, Florian. Alors, c'est, vous pouvez dire le cerf-volant
volant
en espace fermé, si vous voulez.
Oui, alors voilà.
Par exemple.
Si on veut parler en bon français.
Toujours avec Damien Jacob et puis Michael Le Gagnebin pour donc vous présenter le kite indoor. Quels sont les types de cerf-volants qui sont le plus adaptés pour justement cette pratique en espace fermé?
Alors, il y en a plusieurs. Si je me trompe, Michael va aussi me corriger. Alors, il y a le cerf-volant type monofile avec un fil ou le cerf-volant pilotable avec deux fils. Ou il y a aussi le cerf-volant maintenant avec quatre fils. Et puis, le plus adapté, c'est en fonction du cerf-voliste. Chacun son style, chacun va apprécier différents cerfs-volants. Il y a une grande différence, le monofile, c'est de faire voler un cerf-volant en se déplaçant lentement, en levant les bras, en le laissant planer, mais un planning contrôlé pour pouvoir le récupérer et le relancer. Le cerf-volant pilotable, alors là, c'est essayer de le maîtriser et puis de faire des acrobaties avec.
Est-ce qu'il y a des grandeurs de cerf-volant qui sont plus indiquées selon ce qu'on veut faire comme figure ou si on commence cette discipline sportive?
Oui, bien sûr. Plus le cerf-volant est grand, plus il aura de portance. mais il aura aussi inversement plus de poids parce qu'il est plus grand. Donc c'est en ça que les matériaux sont importants. Mais il existe, je dirais, une dimension optimale qui est aux alentours d'à peu près 2 mètres d'envergure. Cela dit, en intérieur, c'est un peu grand. Donc, on a souvent des modèles un peu plus petits. On a fait un petit modèle de salon qu'on peut utiliser chez soi à la maison. Donc, lui, il fait 30 cm à peu près. On le pilote avec une petite baguette et 1 mètre de fil seulement. Mais ça fonctionne très bien. Donc, pour compléter un peu ce que disait Damien, on a en effet les monofiles et les deux fils hein, pour pilotables, les quads quatre lignes qui sont encore un peu un autre domaine, je dirais. Très joli, mais c'est encore un peu une autre discipline. Mais dans les monofiles, on distingue aussi ce qu'on appelle les gliders, donc les planeurs. Damien a insisté sur le côté planning de ce genre de cerf-volant. C'est les cerf-volants qui sont très 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 lent, donc ils sont presque posés en l'air, c'est très zen. On peut trouver des vidéos sur YouTube de Japonais qui font ça dans des salles assis, en fait ils sont sur une chaise et puis ils jouent avec leur fil comme ça. Donc il y a quelque chose qui est assez surprenant et c'est très... ouais, je veux dire, ça bluffe un peu. On se dit, il n'y a pas de vent, il n'y a rien, mais ça vole.
On a un jeune garçon hein, qui est là, qui fait voler son cerf-volant. Ça veut dire qu'on peut commencer à tout âge, Damien ?
Oui, à tout âge. Après, ça dépend de l'enfant lui-même. Mais je pense 6 ans, 5-6 ans, c'est un bon âge pour commencer. Après, ça dépend de l'évolution, ça dépend comment est l'enfant dans sa coordination, dans ses déplacements. Mais on peut très tôt faire des petites choses très sympathiques avec un cerf-volant monofile. C'est très intéressant et les enfants adorent.
Et puis, est-ce que la gente féminine adore aussi ce genre de sport hein?
Absolument. Peut-être pas dans nos régions, quoique des fois on voit quand même des femmes faire du cerf-volant. C'est un peu rare, mais dans le nord de l'Europe où ces sports-là sont bien développés, dans d'autres pays, oui, tout à fait. Et c'est très beau à les voir parce qu'elles sont très dynamiques. Il y a plus de fluidité dans la douceur et c'est juste merveilleux de voir une femme faire du kite indoor.
Mais je pense que les femmes, on a une autre sensibilité que la gente masculine.
Oui, c'est juste. Mais ce qu'il y a de merveilleux avec le cerf-volant, c'est que tout le monde se réunit dans cette sensibilité.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'air de jeu.
On vous retrouve, Claire, en direct de Colombier.
Et on a une bonne nouvelle. Le défi a été relevé et c'est un auditeur de Neuchâtel. Il s'agit de Richard. Bonjour Richard, comment allez-vous ?
Bonjour Claire, très bien et vous ?
Mais très très bien. Alors vous êtes venu avec une plume. Si je la mets comme ça, ça fait un peu « waouh, je peux faire la sco hein ».
Oui, ça.
Vous l'avez trouvée où cette plume ?
Alors je promenais mon chien du côté de Malvillers. Et puis là où il y a des milans, voilà quoi, je l'ai trouvé par terre.
Elle est magnifique. Et vous vous rendez compte, les garçons, que dans le temps, on écrivait avec ce genre de plumes ?
Oui, c'est juste, oui, parce que quand j'ai fait l'école, il y avait encore les trous des encriers sur les pupitres.
Est-ce que vous aimez voler, au bon sens du terme hein ?
Oui, ben, je pense que vous devez le savoir, je suis parachutiste à la base.
Mais oui, on vous avait déjà une fois dans l'air de jeu en tant que candidat. Et puis, vous faites toujours le parachutisme ?
Oui, mais maintenant, je fais le parachutisme commémoratif. Donc, je saute des avions de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, en l'occurrence le C-47. Et dernièrement, j'ai sauté du Nord Atlas. C'est le dernier avion qui peut voler. Il a fait la guerre d'Algérie. C'est un double queue. Voilà, quoi. Je représente ce qui s'est fait pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Et d'où vient cette passion ? Vous avez fait ça à l'armée ?
Oui, j'étais parachutiste à l'armée, effectivement. Oui, voilà.
J'avais fait un saut en tandem, mais c'est assez impressionnant. Hein, quand même. Il y avait de la chute libre aussi. C'était vraiment génial.
Oui, oui, ben, quand vous commencez les écoles préparatoires, ensuite vous commencez directement par la chute libre, pas comme on fait maintenant le commémoratif avec un parachute rond, ce qu'on appelle round canopy, et qui est une static line qui tire le parachute dehors. Là, c'est nous qui devons ouvrir notre parachute seul.
Et là, vous allez pouvoir un petit peu voir et apprécier le monde du cerf-volant. Est-ce que c'est un monde que vous connaissez ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de kite indoor ?
Jamais à l'intérieur. J'écoutais en descendant en voiture comment il fallait faire, courir, les bras, enfin c'était sportif au niveau physique. J'ai vu au bord de la mer parce que j'ai sauté en Normandie, bien sûr, plusieurs fois, et au Mont-Saint-Michel, et puis ben, on les voit là, plutôt là-bas, les cerfs-volants.
Vous avez déjà essayé de sauter en parachute ?
Non, jamais. Et je dois admettre que je suis un peu sujet au vertige. Par contre, ça me donne des idées. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose, une petite synergie, c'est lui mettre des ficelles aux chevilles. Avec beaucoup de vent, on doit pouvoir piloter un parachutiste, je me dis.
Ah ouais, ça peut être intéressant, hein, comme idée.
Alors ça dépend le genre de voile, parce que maintenant, vous voyez à la mer aussi le parachute ascensionnel qui est tiré par les bateaux. Ça, oui, mais c'est tout le matériel qui est spécifique.
Et pour vous, Damien, vous avez déjà essayé de sauter en parachute. Est-ce que c'est peut-être quelque chose qui vous tenterait ?
Alors, le parachutisme, c'était un rêve d'enfance. Quand j'étais un enfant, puis que je voyais un parachute dans les airs, je perdais tous mes moyens, parce que je trouvais ça fabuleux. Puis je me disais toujours, je ferai parachutiste, je ferai du parachutisme. Puis quand j'ai eu l'âge, ça m'a quitté. Pourquoi pas une fois faire un saut, essayer aussi la chute libre, parce que c'est ce qui m'impressionnait le plus dans le parachutisme.
Ben voilà, je crois que le rendez-vous est pris.
Oui, sauf que je ne suis pas pilote tandem.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'air de jeu.
Et jusqu'à midi, l'air de jeu se déroule à Colombier, évidemment, avec Claire et ses invités, pour nous parler justement de ces cerfs-volants qui volent à l'intérieur d'une salle. On a vu, personnellement, j'ai regardé quelques vidéos, c'est assez impressionnant, hein, comment on manie ces cerfs-volants.
Oui, c'est pas évident du tout, hein, parce que, comme on l'a dit, il n'y a pas d'air. Alors justement, comment est-ce que vous adaptez les mouvements dans cet environnement qui est fermé ? À l'extérieur, hein, comme on le dit, il y a du vent. Mais alors, comment vous faites pour qu'un cerf-volant puisse quand même voler en intérieur ?
Alors, je dirais, l'idée de base est de créer un peu de vent. Donc, comme l'air ne bouge pas, c'est nous qui allons bouger.
Vous soufflez ? Par du souffle, hein ?
C'est ça. Non, on recule un peu simplement. Pas besoin d'aller très vite. Et ça donne une petite traction au fil, et ce qui permet de faire monter le cerf-volant. Après, une fois qu'il est en l'air, on joue un peu avec lui, dans le sens où on le laisse se poser, on le laisse planer un petit peu, donc on lui donne du mou, on va dire, on lui donne du jeu. Puis chaque fois qu'on décide de le faire tourner ou de le contrôler un petit peu, on reprend un petit peu de tension. Donc tout se joue, je dirais, sur le petit aller-retour entre tension et pas de tension.
Damien, quand on apprend justement à faire du cerf-volant indoor, c'est quoi les principales difficultés ?
Ben, ça dépend de l'envie puis de la motivation, parce que des difficultés, il n'y en a pas, il faut de la patience puis de la persévérance. Ben, c'est déjà connaître un peu le cerf-volant, pourquoi il vole, connaître sa portance, quel est le phénomène, pourquoi il est porté par les airs, à quel moment il faut lui donner une traction pour qu'il monte, le libérer pour qu'il puisse faire une figure, le relâcher pour qu'il puisse planer. Et quand on étudie ça, ben, on développe justement cette coordination qui nous lie avec lui à travers ses fils.
C'est quoi les techniques essentielles ?
Alors, ben, c'est de se déplacer, soit en marchant ou en trottinant en arrière, en tirant sur les bras, ou alors, avec un peu plus d'expérience, récupérer un tourbillon qui a été créé par un premier passage du cerf-volant. Parce qu'on arrive gentiment, entre guillemets, à percevoir l'air qui se manifeste sous le cerf-volant.
Est-ce qu'on peut dire qu'avec un tel cerf-volant, c'est un petit peu comme un balai aérien ?
Oui, oui, c'est ça, c'est l'idée. D'ailleurs, toutes les compétitions se font un peu dans ce sens-là. Alors, comme j'ai dit avant, il n'y a plus vraiment de compétition en Suisse, mais les compétitions mondiales qui ont lieu chaque année tournent autour d'un système de points, donc de chorégraphie, en fin de compte.
Avec une musique, ça doit être encore plus joli que de voir un cerf-volant voler. Est-ce qu'on peut imaginer que la musique puisse faire partie du vol du cerf-volant ?
Bien sûr, c'est une danse. On peut choisir un morceau, une musique douce ou lente et rythmée en même temps. Et puis on peut faire des mouvements, enfin on peut donner un mouvement au cerf-volant doux ou rythmé. Une cadence, c'est une danse, c'est une chorégraphie, c'est juste.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
On va retourner vers vous Claire à Colombier. On parle de kite indoor aujourd'hui.
Ça fait vraiment rêver, hein, Florian. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez compte avec les photos qu'on vous envoie et les vidéos, mais c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Ouais, c'est vraiment un sport qui mérite d'être connu. Nous sommes toujours donc avec Damien Jacob et Michael Gagnebin. Le kite indoor peut se faire, par exemple, en équipe.
Oui, en équipe, bien sûr. Alors, c'est des démonstrations à la base, sont individuelles, parce qu'il faut quand même un peu de place. Mais on peut faire en équipe 2-3 cerfs-volistes. Du reste, il y a des shows, il y a eu des spectacles où il y avait différents cerfs-volants des monofiles, des doubles lignes, même des quads. Et c'est juste trop beau à les voir faire cette activité ensemble.
Oui, ça j'imagine. Est-ce que vous avez déjà vous-même essayé de faire à plusieurs cerfs-volants des figures ?
On s'essaye. Après, on essaye de parler comme des experts, mais on est quand même assez débutants. On fait ça depuis 2-3 ans. On commence. Donc pour l'instant, on s'en mêle beaucoup les pinceaux.
Les fils !
Voilà, c'est ça, exactement. Mais on est en train d'essayer de le faire, oui.
Alors, quel type de figure on peut réaliser avec un cerf-volant ? On fait une figure vraiment précise ou c'est selon comment on tire, on va se dire « Ah ben tiens, voilà, je ne pensais pas que ça allait donner cette figure-là ».
Alors, il peut y avoir les deux situations. On fait des vols contrôlés en faisant des figures où le cerf-volant se renverse, se met sur le dos, il met son nez devant, il revient devant, on le fait tourner sur lui-même. Enfin, c'est une multitude de figures. Ou alors, parfois, lors d'un mouvement incontrôlé ou même d'une erreur, il y a une figure qui se fait, puis finalement, il y a un certain esthétisme, puis on se dit, mais tiens, comment ça s'est fait ? Et puis, ça donne une ouverture pour apprendre une nouvelle figure.
Est-ce que les ailes de cerf-volant sont fragiles ? Si malencontreusement elles tombent, est-ce qu'elles sont quand même assez résistantes ?
Oui, alors c'est un compromis, hein, solidité-poids, donc c'est souvent du carbone qui a sa fragilité, surtout s'il fait froid. Le carbone est un peu plus friable. Donc ça arrive quand même qu'on en casse. Surtout qu'il existe des cerfs-volants, on va dire, optimisés pour différentes plages de vent. Donc il y a des cerfs-volants faits pour beaucoup de vent, qui sont plus solides que d'autres. Et d'autres, comme on l'évoquait avant, faits pour vent très léger, qui sont plus fragiles. Donc si on sort un cerf-volant fragile avec une journée avec grand vent, il y a des risques qu'on casse une bordure, ouais.
L'air de jeu. On vous le disait, jusqu'à midi, nous sommes en direct de Colombie, du centre sportif du Vignoble avec vous. Et puis, ces petits cerfs-volants volants.
Oui, tout à fait, Florian. Et j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à essayer de faire en voler. Hein.
Vous avez passé une demi-heure à démêler les fils après.
Oui, je me suis un petit peu encoublée avec les lacets de mes chaussures. Le fil est allé un petit peu dedans. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable. On est zen. Ça rend heureux, je trouve.
Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de très simple hein, en soi. On vit une époque où l'amusement est souvent très sophistiqué. Il faut qu'il soit un peu électronique. Là, on est dans quelque chose qui est vraiment très, très basique. Hein. Un élément tout simple, le plus léger, l'air, et puis on joue avec.
Dites-nous, Damien Jacob, est-ce qu'on peut créer soi-même son propre cerf-volant ? On peut louer, le faire à son image aussi ?
Avec l'expérience, on peut créer son propre cerf-volant et puis le faire à sa propre image. Mais du reste, Michael, lui, il en fabrique. Il faut aimer la couture, il faut aimer faire des plans, les dessiner. Et c'est une expérience parce qu'on peut un petit peu sortir des sentiers battus et puis faire d'autres choses, des nouvelles choses qui vont peut-être un peu moins bien ou qui apporteront des nouvelles choses un peu innovantes. Donc oui, c'est enrichissant comme expérience.
Alors vous qui construisez vos cerfs-volants, c'est quoi le plus difficile ?
Pour que le cerf-volant soit bien équilibré, il doit évidemment être assez précis, donc très symétrique. Donc ce qui est difficile, c'est de rester précis. On est en Suisse, donc on a l'habitude d'un travail bien... on suit bien le plan, disons. Donc, ça, c'est un des aspects. Ensuite, il faut faire un peu de couture. Donc, moi, je n'ai pas de formation de couturier. C'est ma maman qui m'aide, en fait. Elle vient chez moi de temps en temps et elle m'aide à coudre les ailes.
C'est quoi le tissu, en quelque sorte ?
C'est un tissu qui doit être en même temps résistant, léger et imperméable pour que l'air croche dedans. Donc, c'est des tissus synthétiques. Hein. Il y a des noms qui ne vont pas vous parler beaucoup. Il y a de l'Icarex, du Millar, ça dépend tout, du grammage. On a certains tissus plus solides, mais un peu plus lourds au mètre carré. D'autres qui sont plus légers, mais qui du coup sont un peu plus souples, un peu plus légers. On a aujourd'hui des tissus qui émergent. Hein. On parle souvent de Dyneema. C'est un tissu qu'on trouve beaucoup dans les habits de montagne ou les équipements de montagne parce qu'il a un rapport poids-solidité qui est très avantageux. Donc utiliser ça dans les cerfs-volants, ça fait du sens. Après, c'est un tissu qui est un peu plus élastique. Donc selon le vol qu'on veut, on aura un effet un peu plus chewing-gum. Alors qu'avec un Icarex plus rigide, on a une toile qui claque un peu plus et puis qui est un peu plus réactive pour faire des figures. Donc voilà.
Damien Jacob, est-ce que quand on range son cerf-volant après utilisation, est-ce qu'il faut être méthodique comme par exemple un parachutiste qui range son parachute ?
Bon alors la différence c'est que le parachutiste lui va être pendu à son parachute, donc c'est un autre risque, mais effectivement il faut en prendre soin. Si on est à l'extérieur puis qu'il y a du vent, il faut faire attention parce qu'il y a des éléments qui peuvent nous voler, abîmer nos yeux. Et à l'intérieur, il faut faire très attention parce que c'est des pièces plus fines, plus délicates, plus légères. Donc il faut être très méticuleux et soigneux, apprendre comme on apprend à construire un cerf-volant, le sort de sa housse à le construire. On doit apprendre aussi à le ranger soigneusement. Ça paraît tout simple comme ça, mais il y a quand même des détails auxquels il faut faire très attention pour ne pas abîmer et pas que la toile s'abîme une fois le cerf-volant rangé dans sa housse.
Florian, dans un instant, eh bien, on va jouer et c'est Laurent qui va s'essayer au blind test.
Ouais, alors je peux vous dire qu'on a diffusé la vidéo, c'est que vous vous amusez à faire voler le cerf-volant. Claire, on a l'impression que vous jouez à la majorette avec votre petite baguette.
10h, midi, envie de prendre l'air de jeu.
Parce que là, je ne sais pas vous Claire, mais moi je suis tout éboussolé, parce que pour moi dans ma tête, il n'est que 10h17, on ne devrait que de commencer. Mais on a changé d'heure, on est en heure d'été, effectivement, c'est de nouveau la belle saison qui s'annonce.
Oui, c'est vrai que ça faisait bizarre hein, de dormir une heure de moins. Oui,
ça faisait surtout bailler ce matin.
Effectivement. Et oui, on parle toujours de kite indoor, ici en direct de Colombier, avec nos invités Damien Jacob et Michael Gagnebin. Et puis on joue également, hein, puisque l'air de jeu, c'est des auditeurs qui viennent vers nous et qui participent à l'un de nos jeux. On a Laurent. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Mais très bien, pour un beau dimanche matin, une belle journée comme ça.
Ça vous a un petit peu aussi déboussolé ce changement d'heure ?
Pas vraiment, je dois dire que je viens de l'apprendre.
Ah, vous n'avez pas changé. Heureusement, vous n'aviez pas un rendez-vous, quelque chose aujourd'hui.
Si, mais tout se met à jour aujourd'hui et puis on ne fait plus attention.
Est-ce que vous aimez la musique ?
Alors, beaucoup.
Quel genre de musique vous aimez ?
Alors, ça va être plutôt du funk, du hip-hop ou du metal, mais j'ai un peu peur des questions.
Et c'est vrai, c'est pas dans le rayon. Hein.
Est-ce qu'il y a un groupe ou un chanteur que vous appréciez ?
Oui, par exemple, Sepultura.
D'accord, vous connaissez Florian ?
Du tout, mais par
moi
contre,
non plus.
Je connais les trois titres, je ne sais pas s'il va connaître les trois titres que vous allez lui proposer.
Alors ça, c'est plutôt du hard ou du métal, hein ?
Du métal trash, oui.
Ah ouais, d'accord, ok. Mais sinon, un petit peu de chansons françaises quand même ou pas du tout ?
Et hip-hop et funk, donc très américain, très anglais. Chansons françaises, oui, NTM.
On va voir ce que ça va donner. Je
et il n'est pas, pas loin du wesh wesh. Hein,
oui, ouais, exactement. Mais allez, pour vous motiver, mon cher Laurent, vous allez jouer pour une formule snack bowling au XL Bowling de La Chaux-de-Fonds. Ce sont deux bons et c'est une valeur de 68 francs. Vous pourrez aller avec la personne de votre choix, manger hamburger frites et puis chaque personne pourra faire deux parties de bowling. Donc je pense que ça vaut le coup quand même d'essayer de se concentrer. Hein ?
On va essayer.
Allez, on vous souhaite bonne chance, c'est parti !
L'air de jeu, le blind test.
Alors voici ma première question. Dites-moi Laurent, quel est le titre de cette chanson reprise en 2014 par une chanteuse française ?
Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus, il y a gare une autre guerre.
Alors est-ce que vous avez le titre de cette chanson ? Vous avez reconnu qui c'était ?
Non, ne pas se retourner peut-être ?
De quelle chanson, gros succès de l'année 84, est extraite cette intro ? Hein ? Ah, il a déjà le chanteur. Minuit se lève en haut des tours, les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd. Non, vous ne voyez pas le titre ?
Le titre, j'ai pas.
Bon, alors celui-là, si vous ne me le trouvez pas, Laurent, quel chanteur américain a sorti en 1998 cette chanson ? Vous l'avez, hein ?
C'est la Lenny Kravitz, oui.
Ah, voilà. Ben oui, Lenny Kravitz. Bon, ding, vous sauvez l'honneur quand même, hein ? Dommage, hein, vous n'avez pas remporté ce bon cadeau, mais on a eu le plaisir de vous avoir avec nous. Et puis, on vous souhaite une bonne suite de journée.
Merci, très belle journée à vous aussi.
10h, midi. Envie de prendre l'air de jeu.
L'air de jeu qui se déroule aujourd'hui à Colombier avec vous, Claire.
Et là, nous sommes avec un jeune garçon qui a 12 ans. Il se prénomme Louis. Bonjour Louis.
Bonjour.
Alors, tu as commencé il n'y a pas très longtemps. Mais qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport ?
Mon père.
Et c'est quoi le plus difficile quand on commence ? C'est, pour toi, c'était quoi ?
D'apprendre les bases, mais après, c'était assez facile. Il fallait juste savoir comment faire monter, comment bouger, beaucoup reculer. J'ai aussi appris.
Et tu as quel genre de cerf-volant ?
Bah, moi, j'utilise beaucoup celle de mon père, là, qui est hyper légère. On peut utiliser la canne à pêche et aussi le cerf-volant, le normal.
Oui, ça, je vais essayer avec la canne à pêche, ça me paraît pas mal. Et c'est vrai qu'on voit plein de gens ici qui s'entraînent. Ah, il y a une dame qui a un très joli cerf-volant, Florian, vous savez pourquoi ? Il est rose.
J'y crois pas.
En tout cas, je te remercie, mais on te souhaite bien du plaisir à continuer. Tu vas persévérer dans ce sport-là.
Ouais.
Les jeunes, Damien Jacob, sont quand même attirés aussi quand même par le cerf-volant.
Oui, ils sont presque automatiquement attirés, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est un phénomène naturel parce qu'ils peuvent faire les choses eux-mêmes, apprendre à faire les choses par eux-mêmes et à faire des objectifs par eux-mêmes. Et ça les motive.
Alors, on voit souvent qu'il y a des compétitions, qu'il y a des festivals aussi pour les cerfs-volants, mais est-ce qu'il y en a plus du tout, alors, comme vous l'avez dit, pour le cerf-volant indoor ?
En tout cas, en Suisse, pas à ma connaissance. France, oui, peut y en avoir, et aussi plutôt au nord, les Pays-Bas, et après aux USA. Mais en Suisse, il n'y a plus, quoi. Non.
Quel gagne-bain ? Est-ce que le cerf-volant a toujours été un objet de loisir, de sport ? Où il y a très 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 longtemps, est-ce qu'il servait à autre chose ?
Alors, on a assez peu de traces historiques des cerfs-volants. On n'a pas de réponse vraiment définitive là-dessus, mais on sait que les plus anciennes traces sont des traces plutôt pragmatiques, plutôt militaires, je dirais même. Il s'agissait au Moyen-Âge, avant encore, d'effrayer l'ennemi. Donc on pouvait suspendre des feux, suspendre quelque chose qui brille, quelque chose, faire des dragons, l'origine des dragons volants, c'est un peu ça, hein, faire marcher l'imagination de l'ennemi en le surprenant. Mais aussi, pour des fins d'observation, je dirais, c'est eu arrivé qu'on suspende un soldat, un cerf-volant, donc un énorme cerf-volant, évidemment, il fallait du vent, pour qu'ils puissent observer les positions ennemies, donc à une époque où on n'avait pas encore tout ce qu'on a aujourd'hui pour se faire. Donc ça devait être quelque chose d'assez dangereux, je dois dire, surtout qu'on devait être un peu sous le feu de ceux qu'on observait. J'aurais pas voulu être dans cette situation. On trouve aussi quelques vieilles références au niveau de la Grèce antique. Donc on avait un personnage qui était apparemment qui avait fait voler un oiseau en bois. Alors on ne sait pas trop s'il y avait des ficelles, si c'était juste un planeur ou comme ça, mais on pense que ça pouvait déjà être des cerfs-volants. Donc je dirais historiquement, c'est un peu ces applications-là. Il y avait aussi, évidemment, on connaît tous aussi l'histoire de la légende.
Ah oui, Icare avec ses ailes de cire.
Voilà, mais je pensais plus à Franklin. Qui a fait des expériences avec la foudre, avec un cerf-volant, hein, en suspendant une clé. Et puis, donc évidemment, on sait aujourd'hui qu'il ne faut pas faire du cerf-volant s'il y a de l'orage. C'est très dangereux. Et à l'époque, il avait démontré que c'était l'électricité qui pouvait être conduite sur un fil de cerf-volant. Donc c'est aussi un objet d'expérimentation dans ce sens-là. On trouve d'ailleurs aujourd'hui aussi des cerf-volants pour des stations météo. Donc on connaît les ballons, hein, mais il y a aussi des modèles qui marchent au vent. On parle aussi aujourd'hui de créer des moteurs éoliens avec des cerfs-volants, des voiles. Donc on sera plus sur des voiles de type parapente, hein, c'est des voiles de traction, on va dire, qui doivent surtout être efficaces. C'est pas tellement pour voler et puis faire des figures, quoi. Mais... Donc le cerf-volant est très vaste à ce niveau-là.
Jusqu'à midi. L'air de jeu.
Et on va retourner à Colombier où on vole avec des cerfs-volants aujourd'hui.
Oui, et nous avons avec nous... C'est comment votre prénom ?
Renelle.
Renelle ?
Yes.
Ah, et vous venez d'où ?
South Africa.
Et ça fait longtemps que vous êtes en Suisse ?
Oui, déjà 12 ans, mais je ne veux pas souvent dire parce que mon français n'est pas très bien pour 12 ans.
Alors, moi, je veux vous dire que mon anglais, il n'est pas very good. Alors, qu'est-ce qui vous plaît ici en Suisse, Ronald ?
J'aime bien tout parce que c'est très sûr, c'est joli, c'est propre, les choses marchent bien, donc je sens bien ici.
Est-ce que vous retournez de temps en temps dans votre pays ?
Pas souvent, normalement une fois par année pendant l'été, mais malheureusement en Afrique du Sud c'est hiver, donc de temps en temps je préfère rester ici pour le soleil.
Ah ben ça j'imagine, hein. Mais c'est vrai que ça doit être un beau pays. Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir dans votre pays, l'Amérique du Sud ?
On a aussi beaucoup de nature et les animaux sauvages dans le parc, mais pas partout, comme les gens pensent, pas dans les rues comme ça. Mais on a aussi beaucoup de choses bien et les gens sont sympas et chaleureux et humour. Donc c'est vraiment joli là-bas.
J'imagine qu'en Afrique du Sud, on fait aussi du cerf-volant.
Je ne sais pas du tout. Je connais personne qui fait le cerf-volant en fait, mais beaucoup de gens sont sportifs, mais plutôt regarder le rugby, peut-être dans le sofa.
On va jouer avec vous si vous le voulez bien, ma chère Ronel. C'est question de culture générale et ce sont des questions sur le cerf-volant en général. Alors, on va jouer avec vous, Ronel. Et si vous me donnez, il me faudra me donner en tout cas deux bonnes réponses pour remporter un bon cadeau d'une valeur de 50 francs à faire valoir chez Vertical Passion à La Chaux-de-Fonds, un magasin de sport où vous pourrez profiter de plein de choses. Est-ce que vous êtes prête?
Oui.
Alors, on va dire let's go. Dites-nous, Ronel, dans quel pays asiatique le cerf-volant a-t-il vu le jour sous la dynastie Tang ?
Chine.
Comment se nomme une personne pratiquant le cerf-volant ?
Cervoliste.
Alors là, c'est facile, hein ? Quel mot anglais désigne un sport nautique se pratiquant avec une sorte de planche de surf tractée par un cerf-volant ?
Kitesurfing.
Yes! Very good! C'est bien en Chine qu'est né le cerf-volant. En tout cas, on en trouve des traces. Le cervoliste, ben oui, c'est la personne qui pratique le cerf-volant. Et puis le kitesurf, eh bien oui, c'est ce sport. Ben bravo, vous remportez, Ronel, ce bon d'une valeur de 50 francs à faire valoir chez Passion Verticale à La Chaux-de-Fonds. Puis on va profiter de ce que vous parlez l'anglais pour nous dire un petit quelque chose en anglais du genre, bonne journée aux auditeurs d'RTN. Voilà, j'étais contente de passer dans l'air de jeu sur RTN.
Okay, thank you very much for my airtime in English. It was very nice, thank you.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
Ben, let me indoor, puisqu'on est dans l'intérieur aujourd'hui.
Et oui, toujours avec nos invités Damien Jacob et puis Michael Gagnebin pour, comme vous l'avez dit, hein, ce sport, loisir également, le kit indoor. Alors, est-ce qu'on peut dire, Damien, que le kit indoor, selon vous, est-ce que c'est une forme d'art autant qu'un sport finalement ?
C'est les deux. Sport, parce qu'il faut bouger, il faut aimer bouger. Ou alors, on peut aussi presque rester sur place en faisant des mouvements avec les bras. Et puis l'art, c'est aussi, on peut faire des mouvements gracieux ou de chorégraphie, ça dépend de l'état d'esprit, on peut choisir.
Voilà, vous aimez faire un petit peu le côté artistique quand vous pilotez votre cerf-volant ?
Alors ça dépend du moment, puis le feeling que j'ai avec le moment présent, ou ça dépend aussi tout d'un coup si j'écoute de la musique. Ce que je suis en train de faire, je peux associer les deux.
Quel genre de musique, pour vous, s'adapte le mieux quand vous faites aller votre cerf-volant ?
Pour moi, donc après d'autres personnes, c'est d'autres musiques, mais moi j'aime bien écouter les 4 saisons de Vivaldi, par exemple.
Et pour vous, Michael, ça serait quoi comme genre de musique ?
Bon, alors ça dépend, mais en général, je mets de la musique plutôt planante, puis je trouve ça plutôt sympa. Mais c'est vrai que des fois, on aime être un peu plus rythmé. Puis dans ce cas, c'est plutôt de la musique, rythmée, quoi.
Alors, je pense à Laurent, le candidat qu'on a eu tout à l'heure, qui lui était plutôt musique hard. Est-ce qu'on pourrait imaginer de faire voler le cerf-volant sur de la musique hard rock ?
Absolument, absolument. D'ailleurs, si les auditeurs sont intéressés, je vous encourage à aller voir sur YouTube certains, on appelle ça un ballet hein, en cerf-volant, ça s'appelle un ballet de cerf-volant. Certains ballets sont très très rythmés avec de la musique qui a la pêche quoi.
Et puis là, on a des gens. Est-ce que vous pouvez, Damien, nous présenter les personnes qui sont ici ?
Oui, à la base, c'est un, je ne vais pas dire un ami d'enfance, mais un frérot de campagne de moto, motobike. On s'est rencontrés en roulant Harley Davidson, d'excellents souvenirs. Et puis, c'est un monsieur qui a toujours été très sage. Maintenant, il est devenu encore plus sage parce qu'il a trois merveilleux enfants. Et puis, il est venu nous rejoindre parce que les enfants adorent les activités. Enfin, ils sont élevés premier les activités saines et d'extérieur.
Alors, on va tendre le micro. Venez près de moi. Votre prénom, si j'ai bien compris, c'est Raffaella.
Juste, oui.
Comment allez-vous ?
Mais bien, merci.
Vous étiez dans la région avant ou vous êtes du canton de Neuchâtel ?
Non, je suis du canton de Berne. Je viens de Bienne, mais je travaille sur Neuchâtel, oui.
Une de vos filles a son anniversaire aujourd'hui. Mais bonjour, tu as quel âge ?
13.
Quel est ton prénom ?
Laura.
Est-ce qu'on ne pourrait pas tous chanter ? Alors Florian, vous êtes avec nous ? Allez, 1, 2, 3.
Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Laura, joyeux anniversaire.
Moi j'ai la version normale.
Joyeux anniversaire, heureux anniversaire.
Je crois que tu vas garder un bon souvenir hein, de ton anniversaire, Laura.
Oui.
Alors elle ne parle pas du tout le français.
Ils apprennent à l'école, oui. Mais...
Parce que vous venez d'où exactement ?
Moncier, c'est en français.
Et puis en suisse-allemand, c'est ?
Münchemir.
En tout cas, merci d'être passé.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'air de jeu.
Et on se rend une toute dernière fois à Colombier. On a passé une belle petite matinée. On a appris beaucoup sur ce sport ballet, si on peut dire ça comme ça, qui nous fait danser dans une grande salle en faisant agiter un cerf-volant.
Oui, franchement, c'est génial. Et puis, il y a tellement de possibilités, de techniques. Je crois que toute personne y trouve son compte. Alors, c'est vrai que j'ai essayé avec deux fils, mais c'est pas évident quand même, parce qu'on a tendance un petit peu, quand il y a deux fils, de les emmêler. Et là aussi, c'est tout un apprentissage, Damien.
Si on a la motivation et qu'on aime ça, donc on aura le temps, la persévérance, et c'est un apprentissage qui peut être agréable. Parce que quand on arrive à faire les premiers envols, les premiers posés, avec une bonne coordination, c'est une satisfaction parce que ça vient de nous, que de soi-même, par notre corps, notre esprit, notre cerveau.
Vous vous entraînez régulièrement ?
Oui, en tout cas en hiver parce qu'on est plutôt à l'intérieur. Du reste, on a la possibilité de louer une salle de gymnastique à Peseux. Il y a quelque chose d'incroyable, c'est qu'au début, quand on a commencé avec Michael à faire du cerf-volant outdoor, donc à l'extérieur, des fois on était un peu frustrés parce qu'il n'y avait pas de vent. Et maintenant, on aime presque mieux les météos où il y a un faible vent. Donc on a appris à jouer, à travailler avec un élément qui est peu présent finalement.
Après les avantages en salle, c'est qu'on peut jouer à toute saison, même quand il ne fait pas beau. Il n'y a pas de restriction que si on est à l'extérieur, s'il pleut, s'il neige, ben c'est pas possible.
Absolument, oui. Alors c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient parce que c'est chouette d'être dehors et puis dedans, il y a moins de surprises, quoi.
Merci infiniment de nous avoir accueillis ici. On a appris plein de choses. Merci beaucoup, Michael Gagnevin.
Merci à vous.
Merci à vous également, Damien Jacob.
Merci à vous. Juste une petite chose, pour ceux ou celles qui voudraient essayer, on leur recommande vivement de s'adresser à des gens qui le pratiquent, parce que ça peut devenir vite décourageant. Comme des fois, on voit à l'extérieur des familles qui arrivent avec des cerfs-volants, et puis ils ne connaissent pas. C'est très difficile à les faire voler, même s'il y a du vent. Et au bout de 10 minutes, souvent, ils remballent et ils partent. Donc n'hésitez pas à vous approcher de personnes qui pratiquent le cerf-volant outdoor ou indoor.